RCF.
Christine Pedotti, dans votre livre « Jésus, l'homme qui préférait les femmes », vous relisez, je le rappelle, les quatre évangiles pour nous donner à voir combien Jésus regarde les femmes en souffrance, mais aussi les femmes dans la vie, dans leur vie de tous les jours. Il se laisse toucher par elles. Et il y a un épisode que vous citez, que vous aimez beaucoup, c'est Marie de Béthanie, qui va verser sur le corps de Jésus un parfum précieux très peu de temps avant son arrestation et sa mort. Et vous dites que ce geste, il n'a pas été assez mis en valeur dans la tradition.
Alors, l'onction de Béthanie, c'est trois textes dans l'Évangile, dans la forme explicite de l'onction de Béthanie, deux dans les synoptiques et un dans Jean. Et puis, il y a un texte qui ressemble à ça, qui est chez Luc, qui ne se passe pas à Béthanie, qui se passe en Galilée, dans lequel une femme qui est dite une femme de mauvaise vie répand du parfum sur les pieds de Jésus chez
Simon le pharisien.
Et va les essuyer avec ses larmes. C'est une scène d'une intensité charnelle extraordinaire, d'une immense sensualité.
Et on confond ces deux textes.
Alors voilà. Donc en fait, on a cette scène chez Luc. Puis ensuite, chez les trois autres évangélistes, on a deux scènes différentes. Une qui est racontée chez Matthieu et Marc, qui est une onction de parfum sur la tête de Jésus. Donc on est juste avant la Passion. Une femme qui n'a pas de nom verse de l'huile parfumée sur la tête de Jésus. Cette scène a été totalement oubliée par la tradition chrétienne. De façon étonnante, alors qu'il y a un ordre mémoriel dans cette scène, puisque Jésus, les disciples protestent parce qu'elle a répandu un parfum très cher, et Jésus lui dit « Arrêtez de chercher des misères à cette femme, ce qu'elle l'a fait, elle l'a fait en vue de mon ensevelissement, et partout on fera mémoire de ma mort, on fera mémoire du geste de cette femme. » Alors c'est quand même un truc extraordinaire, parce que l'onction d'huile sur la tête, c'est l'onction royale. C'est l'onction que fait le prophète quand il choisit le roi. Ce n'est pas un geste anodin. Dans la symbolique, c'est similaire à l'entrée dans Jérusalem au moment de la Passion. Jésus entre comme un roi à Jérusalem, comme le roi David qui est entré dans Jérusalem. Et là, il reçoit de la part d'une femme une onction d'huile sur la tête. C'est une scène absolument incroyable, avec en plus un ordre de mémoire très clair. Partout où on fera mémoire de ma mort, on fera mémoire de cette femme.
Donc la parole est forte.
La parole est forte. Et la scène chez Jean n'est pas tout à fait la même. Chez Jean, la femme est identifiée, c'est Marie de Béthanie, notre Marie que nous avions vue au pied de Jésus, qui est aussi la Marie de la résurrection de Lazare, qui est la sœur de Marthe. Et Marie répand, alors cette fois sur les pieds de Jésus.
Et pas la tête, les
et
pieds.
Et pas la tête, les pieds. Un parfum de grand prix, et de nouveau, on va protester. C'est Judas qui
dit cet argent pour elle donner aux pauvres.
Donner aux pauvres, absolument. Alors, ce qui est tout à fait amusant, c'est que quand on entend ce texte dans la liturgie, en général, l'homélie est faite sur l'argent qu'il faut savoir dépenser à bon escient, et on ne fait pas de commentaire sur le geste de Marie de Béthanie, qui elle aussi fait ce geste en vue de l'ensevelissement. Et puis surtout, on ne fait évidemment jamais le rapport avec le fait que Jésus va reprendre le geste de Marie de Béthanie, puisque dans l'évangile de Jean, il va laver les pieds de ses disciples. C'est le geste eucharistique dans Jean, c'est le lavement de pieds.
On commence à l'entendre un peu quand même, le fait qu'il se soit inspiré de ce geste donné par une femme pour le revivre avec ses disciples.
Ce qui est intéressant, c'est quand on va chercher dans l'iconographie pour voir comment ces scènes-là ont été représentées. Alors, quand on cherche des onctions dans l'histoire de l'art, on ne trouve presque jamais, je crois que j'en ai trouvé deux sur des miniatures médiévales, on ne trouve jamais des onctions d'huile sur la tête. Parce que ça, je crois que l'acte prophétique de cette femme, c'était inenvisageable, donc on l'a pas représenté.
Oui, en gros, elle dit, voilà, c'est le Christ, parce qu'il est loin. Quoi.
Il est loin, c'est le roi. Ouais. Enfin, c'est un geste absolument incroyable. Elle précélèbre sa mort, elle dit qui il est, et elle annonce sa royauté. Enfin, je veux dire, on en a le souffle coupé quand on prend la mesure de ce qu'elle fait.
Pas d'onction sur la tête, dans les œuvres d'art.
Pas d'onction sur la tête dans les œuvres d'art. Donc on trouve des onctions des pieds de Jésus, et la plupart du temps, c'est pas l'onction de Béthanie, c'est l'onction de Luc. Chez la courtisane. Parce que c'est si joli à représenter. On montre cette belle femme à la poitrine palpitante qui se répand aux pieds de Jésus. C'est une très belle scène.
Et on confond les deux, du coup.
Alors évidemment, on confond les deux. Donc on confond la courtisane de chez Luc avec la Marie de Béthanie de chez Jean et avec la Marie-Madeleine du tombeau, qui elle aussi, et c'est une figure de cette belle femme représentée dans l'art, qui tend la main vers Jésus au moment de la résurrection.
Marie de Magdala.
Marie de Magdala. Laquelle Marie de Magdala, la seule chose dont on sait d'elle, c'est que Jésus a chassé sept démons. Il ne nous est pas dit qu'elle ait été jamais courtisane ou quoi que ce soit.
On ne sait pas de quoi elle souffrait finalement. Il y avait sept démons, mais...
On ne sait pas du tout. En revanche, on sait qu'elle suit Jésus avec d'autres femmes depuis la Galilée, donc elle est une disciple de façon tout à fait explicite, et puis elle est celle qui reçoit la toute première, l'annonce de la résurrection, qui est l'apôtre, elle est l'apôtre des apôtres. Et en fait, elle a été confondue avec ces femmes, donc avec la femme pécheresse. Donc on voit que autour de cette question d'onction, dans laquelle les femmes sont au premier plan, les femmes font des gestes qui sont d'une importance considérable, dans lequel il y a des ordres de mémoire indiscutables, dans lequel il y a des formes sacramentelles qui sont extrêmement faciles à observer, ces épisodes ont été totalement passés sous silence dans l'exercice de la tradition que nous en avons.
Et recouvert par une figure qui est Marie-Madeleine, qui est une confusion,
de trois personnages. De femmes pécheresses. Alors c'est d'autant plus étonnant, c'est que, imaginez-vous de surcroît, que quand en fait les deux mêmes évangélistes, Marc et Matthieu, nous racontent la scène, le repas du Seigneur, il n'y a pas d'ordre de mémoire chez Marc et Matthieu. Le fameux « vous ferez cela en mémoire de moi » n'est pas chez Marc et Matthieu. L'ordre mémorial de Marc et Matthieu, il est sur l'onction de la femme. Moi, le jour où je me suis retrouvée face à ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires qui ressemblent si peu à ce que je vis ?
Christine Pedotti, quand vous dites qu'il est bon de retrouver le geste mémoriel, finalement, de cette femme qui va oindre Jésus, qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce que vous dites, vous le mettez en parallèle avec l'autre phrase qu'on a retenue, « Faites ceci en mémoire de moi, le partage du pain et du vin ».
Alors, sans même rentrer dans des discussions pour savoir la place des femmes dans les liturgies, etc., je trouve qu'on pourrait, à minima, considérer qu'il y a là une structure sacramentelle telle qu'on pourrait envisager que les femmes puissent célébrer l'onction des malades, par exemple, qui serait exactement la copie de cet acte mémoriel, de cette annonce qui est faite là. On l'a vraiment dans sa structure. Je dirais, pour le moins, ça serait la moindre des choses, évidemment. Maintenant, je veux dire, c'est aussi une façon de réexaminer l'extraordinaire privilège qui est accordé aux femmes par Jésus, puisqu'en fait, elles sont au plus près de l'intelligence spirituelle de ce qui est en train de se jouer, tel que les évangélistes nous le racontent. Moi, je n'ai d'accès à Jésus que par les textes des évangélistes, mais quand je lis ces évangélistes, je vois que les femmes sont mises en scène avec une très grande intelligence spirituelle dans ce moment crucial où on s'approche de la mort, évidemment.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on est introduit autant de confusion, parce que quand on lit les évangiles, les textes sont clairs. Il y a Marie-Madeleine ou Marie de Magdala délivrée par sept démons, on ne sait pas du tout la nature de ces démons. Il y a Marie de Béthanie qui pose donc le geste de l'onction, et puis cette courtisane dont on ne connaît pas le nom et qui vient pleurer aux pieds de Jésus, on se dit, mais les choses sont claires. Et pourquoi ça a été recouvert par l'idée d'une pécheresse qui est symbolisée par Marie-Madeleine ?
On est obligé de dire qu'il y a eu, par un monde extrêmement masculin qui a lu ces textes, une façon de considérer les femmes comme étant sexuellement dangereuses. Et donc, en fait, la pécheresse, elle est l'illustration de la femme sexuellement dangereuse.
On projette
donc,
sur elle.
On projette sur toutes les femmes ce caractère de danger pour les clercs. Voilà.
C'était une manière de la mettre à part.
De les mettre à part, de les repousser et finalement de vivre dans un monde qui est un monde masculin et dans lequel le féminin n'entre que par la figure maternelle de Marie, qui elle évidemment est une figure sans danger. C'est la seule lecture qu'on peut en avoir. Alors, de là en tirer des conclusions, bah oui, c'est un monde très masculin dans lequel les femmes n'ont pas de place. Donc, dans la lecture qui a été faite, les femmes n'ont pas trouvé leur place. Mais quand on lit les évangiles, elles sont là. Elles sont là. Et quand je titre l'homme qui préférait les femmes, je ne le titre pas de façon exagérée. Je ne le titre pas pour faire un titre qui se vende. Je le fais parce que ce qui apparaît de façon claire, c'est que, comme quelqu'un me disait dans une conférence que je faisais, mais Jésus aimait tout le monde, je dis oui, Jésus aimait tout le monde, et il préférait les femmes.
Mais c'est fort le terme, il préférait, on peut vous dire, oh, quand même, vous exagérez.
Mais oui, mais au fond, je n'exagère pas dans la mesure, alors ça c'est une chose que j'essaie d'expliciter, c'est que finalement, quand on est une femme qui lit l'évangile, on est sensible au fait que Jésus est un homme. Que ça n'est pas anodin de lire l'évangile en étant une femme ou en étant un homme. À condition de se défaire d'une lecture qui a été profondément masculiniste. Parce que moi, pendant des années, j'ai lu l'évangile avec des yeux d'homme. Parce que la lecture qu'on m'avait donnée dans mon histoire était une lecture masculiniste. Et au fond, j'avais ces lunettes de lecture masculine sur les yeux. Et il a fallu que je retire ces lunettes et que je commence à regarder Jésus comme la femme que je suis. Et le Galiléen a commencé à devenir vraiment un homme. Et moi, j'étais une femme devant un homme. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup intéressé un certain nombre de mes amis théologiens en les questionnant, en leur disant « Qu'est-ce que ça change pour toi que tu t'attaches à Jésus-Christ qui est un homme ?» Ça veut dire que, d'une certaine façon, tu entres en amitié d'une façon particulière avec lui, quand moi, au fond, je peux me laisser aller à une forme d'amitié amoureuse parce que je suis une femme et parce qu'il est un homme.
Nous terminerons demain, Christine Pedotti.